Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue dans notre studio de Radio Foot International sur RFI. Comme chaque jour, nous sommes au rendez-vous et nous évoquerons aujourd'hui ce quadruplé, un quadruplé de plus pour Cristiano Ronaldo. La star des pelouses a largement contribué aux deux victoires du Portugal et voilà CR7 à la chasse d'un nouveau record, celui de meilleur buteur d'une sélection nationale. Il lui faut encore marquer au moins 17 buts sous les couleurs lusophones. En sera-t-il capable ? Les champions du monde, très proches de l'Euro 2020, les Bleus, même avec beaucoup d'absents et même avec beaucoup de remplaçants, ont remporté deux matchs et surtout montré que Didier Deschamps a des alternatives. L'équipe de France a-t-elle enfin de vrais remplaçants, comme les grandes nations ? L'exploit d'un petit poussé en Afrique, Djibouti disputera pour la première fois les éliminatoires en vue de la Coupe du Monde 2022 avec 13 autres sélections, notamment le Togo et la Guinée, mais sans les hirondelles du Burundi. Rappelons-le, seulement 5 places pour le Qatar seront à prendre pour ces équipes africaines. Et invité dans ce studio aujourd'hui, eh bien, bienvenue à Nabil Djellit. Bonjour Nabil.
Bonjour Annie et bonjour à tous.
Il y a aussi Patrick Juillard, son camarade. Bonjour
son
Patrick
acolyte.
Juillard.
Bonjour Annie et bonjour à tous.
Alors l'un de France Football, l'autre du site Foot 365 Afrique et puis d'Eurosport, eh bien, c'est Naïm Ognol.
Bonjour. Salut Annie, salut à tous.
Olivier Pron nous rejoindra dans quelques instants, l'homme des bleus, l'homme en bleu. Mais pour l'instant, à Radio Foot, un petit clin d'œil. Un clin d'œil du basket au ballon, au rebond. Hein, au basket, donc pas le même ballon, donc, mais des bleus qui viennent d'accomplir un exploit.
C'est fait ! France et Argentine en demi-finale ! Les Français qui battent les Américains pour la première fois depuis 13 ans en compétition officielle. L'inimaginable est faisable. La preuve, ils l'ont trouvé.
On est en demi, chantent les supporters de cette équipe de France là-bas du côté de la Chine. Le prochain match, demi-finale, et ça sera face à l'Argentine. Alejandro Valente se prépare déjà, mais il nous l'a dit, hein, Messi ne joue pas. Radio Foot, c'est parti.
Cristiano Ronaldo qui s'élance, le contre-pied parfait pour Cristiano Ronaldo. Le Portugal mène 1-0 ici à Vilnius en Lituanie. La frappe de Cristiano Ronaldo s'est écrasée. Oh, attention, okay. Dedans et la boulette. Ça fait quand même mouche, ça fait surtout 2-1 pour le Portugal. Bernardo Silva, João Cancelo qui fait l'appel évidemment dans son dos. Et Ronaldo le triplé pour Cristiano Ronaldo, le quadruplé pour Cristiano Ronaldo. Le sourire qui va bien, 4-1 pour le Portugal, quadruplé de Cristiano Ronaldo.
Mais qui arrêtera Cristiano Ronaldo ? Ni son âge, ni des défenseurs qui ne parviennent donc à empêcher ce joueur d'exception de marquer. Hier soir, c'était à Vilnius, sous le maillot du Portugal. Le quintuple Ballon d'Or a donc inscrit un quadruplé, 4 des 5 buts marqués par sa sélection. C'était son deuxième quadruplé en sélection portugaise. De quoi épater tout le monde et même les supporters adverses. Un Lituanien est entré un peu par surprise sur la pelouse. Il s'est agenouillé devant Cristiano Ronaldo. Et d'ailleurs, le quotidien Abola, le quotidien du Portugal, a titré aujourd'hui « Notre père des buts », bien sûr, devant cet homme qui s'agenouillait et qui semblait prier devant Cristiano Ronaldo. Voilà donc Cristiano Ronaldo toujours plus haut, 93 buts en 160 sélections, mais un homme le précède. Le challenge de Cristiano Ronaldo qui n'a peur de rien, eh bien, c'est un Iranien qui s'appelle Ali Dahi et qui a marqué 109 buts en 149 sélections. C'est pour ça que je disais qu'il en manque encore 17. C'était un joueur d'une équipe iranienne.
Très bon joueur.
Et il a quand même disputé deux Coupes du Monde.
Oui, très bon joueur. C'est une
98
star.
En France, c'est et 2006.
C'est un des plus grands joueurs du football asiatique. Alors, on imagine qu'il a empilé des buts aussi en sélection nationale, peut-être contre parfois des sélections relativement faibles, mais ça n'a pas empêché de faire une carrière.
Un peu comme Cristiano.
Cristiano, c'était ouais. contre la Lituanie.
Tout à fait.
Hein, donc...
Mais ça n'a pas empêché de faire une carrière très honorable du côté de la Bundesliga. Il est passé, il s'est surtout fait connaître dans un club de l'ex-Allemagne de l'Est, l'Arminia Bielefeld, par lequel est passé plusieurs joueurs iraniens puisqu'il y avait une filière. Il a également joué, comme l'a dit tout à l'heure Naïm hors micro, à Hertha Berlin. Et moi, je me souviens surtout qu'il avait quand même signé, et ça c'est rare, un contrat quand même avec le Bayern de Munich d'une saison. Il y a eu un autre iranien, celui qui était surnommé le Zidane iranien, Ali Karimi, qui avait aussi signé un contrat du côté du Bayern de Munich. C'était un grand joueur, c'était un joueur très grand, type pour ceux qui ont les images dans l'esprit, type Hakan Şükür, le grand joueur turc.
Et Ali Daik avait d'ailleurs perdu la finale de Ligue des Champions avec le Bayern de Munich contre Manchester United en 98-99. Il faisait partie de cette équipe-là.
Donc, il a pris sa retraite en 2006, mais il a donc ce total incroyable de 109 buts en 149. Alors Cristiano Ronaldo, il est deuxième de ce classement mondial, devant Puskas le Hongrois, alors des années 50, et qui lui a marqué 84 buts pour 89 matchs, hein, c'est absolument
89
incroyable.
Si on compte avec l'Espagne, mais avec la Hongrie, c'est 85.
Effectivement.
Il y en a un qui pourrait se rapprocher, Annie, à terme, c'est Neymar, mais... Qui va quasiment rejoindre Ronaldo, le Brésilien, enfin forcément Ronaldo R9, mais Neymar, je crois que c'est 62 ou 63 buts, il est encore très jeune.
Il peut même faire le record de Pelé de 77.
Et voilà, donc Neymar
mais
devrait normalement...
Le niveau des éliminatoires en Amérique du Sud est plus homogène, il y a moins de pays.
Après, il y a les amicaux.
Il n'y a pas de vrai cancre, même la Bolivie et le Venezuela... C'est faible, mais
Bolivie,
c'est moins faible. Oui, mais c'est moins faible que Gibraltar ou San Marin ou les îles Féroé ou ces équipes-là ou Andorre.
Enfin, Neymar,
il sera pas loin, mais je pense que d'ici là, Ronaldo aura largement passé les 100 buts.
Vous pensez qu'il arrivera, c'est son 9?
Oui, je pense. Oui,
je pense que ça va être un de ses objectifs.
Je pense, parce que c'est quelqu'un qui est toujours motivé, même si le match a un enjeu dérisoire, même si l'adversaire est très faible, il est toujours au taquet. Ça, on peut pas lui enlever. C'est vrai que ce sont des équipes faibles, mais encore faut-il les mettre, les buts. Et
bien sûr,
certains joueurs français l'ont pas fait hier soir contre Andorre, et lui, il l'a fait. Donc ça, on peut pas lui enlever. Et surtout, il a un autre record, moi, qui m'impressionne plus. C'est le seul joueur qui a marqué des buts dans 4 Euros et 4 Coupes du Monde à la suite, sans interruption. Il n'y a aucun autre joueur qui ait fait ça. C'est dire quand même l'exigence du joueur. Et en plus, je trouve que l'évolution de Cristiano Ronaldo le sert, puisque au fur et à mesure de sa carrière, il est de plus en plus finisseur, en fait. Il a commencé comme un joueur de côté, plus à percuter, à faire les dernières passes. Et maintenant, c'est une sorte de super Cavani, c'est-à-dire c'est un super finisseur.
C'est l'arme fatale.
Voilà. Puis, maintenant, il faut relativiser. Je pense que le mérite d'un joueur comme Puskas, avoir mis ses 84 buts dans les années 50, est plus grand, puisqu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de pays, les éliminatoires étaient plus courtes.
Et moins de matchs.
Il y avait moins de matchs, donc... C'est encore plus extraordinaire. Mais bon, Ronaldo est une machine à marquer des buts. Voilà,
d'abord, le record, il peut le faire parce que le format des éliminatoires s'y prête. Les équipes sont très faibles, il y a beaucoup de matchs. Deuxièmement, on augmente le nombre de matchs par compétition. Donc forcément, s'il y a plus de matchs, il y a plus de possibilités de marquer des buts.
Oui, avec la Ligue des Nations récemment.
Bien sûr,
l'Euro à 24.
La vraie force de Ronaldo, moi, c'est ce que je trouve extraordinaire, c'est que on dit toujours le Portugal, c'est Ronaldo et les autres. Mais si on se penche sur les autres, on se rend compte quand même qu'il a marqué avec toutes les équipes du Portugal. C'est-à-dire que quand il est arrivé, il avait encore la grosse équipe du Portugal, les Manus, les Costinha, Figo, Paul et Tatin. Et plus ça a été, plus l'équipe s'est quand même, on va dire, un petit peu baissé de niveau, ça s'est renouvelé. Là, il peut jouer en pointe, il peut jouer sur un côté, il peut jouer avec des joueurs à l'époque qui jouaient tous à l'extérieur. Et puis finalement, maintenant, on joue avec beaucoup de joueurs qui sont issus du championnat local. Peu importe qui il a autour de lui.
Avec le petit nouveau, là, Joao Félix,
notamment, il y a Bruno Fernandez, il y a tout le monde, il y a William
Bernardo
Carvalho.
Bernardo Silva, qui est un fantastique passeur.
Lui, il est merveilleux.
C'est Monsieur Caviar. Hein. Avec De Bruyne, actuellement, au niveau des passes décisives, c'est ce qui se fait mieux.
Je pense que c'est le meilleur joueur, de toute façon, de Manchester City.
Après Mahrez, mais bon.
Mais Cristiano Ronaldo, la vraie force, là, qu'on a eu des joueurs qui marquaient beaucoup de buts, qui étaient extraordinaires, mais parce qu'ils avaient beaucoup, beaucoup de talent autour d'eux. Cristiano Ronaldo, lui, est capable de marquer avec toutes les équipes du Portugal, que ce soit les plus fortes comme les plus faibles. Et ça, c'est absolument à mettre à son crédit. C'est incroyable.
Et après, Anis, ce qui est important à rappeler, on va dire que je les oppose et certains, ça les irrite. Je peux le comprendre, mais ça rentre en ligne de compte. Cristiano Ronaldo sans Messi et Messi sans Cristiano Ronaldo, c'est pas possible. Dans le match des sélections, aujourd'hui, il y en a un qui vire en tête, c'est Cristiano Ronaldo, puisqu'il a gagné l'Euro avec sa sélection nationale. Et vous parlez de ce record. Éventuellement de buts en sélection nationale au moment où Messi lui galère encore avec l'Argentine, sur ce registre-là par exemple, il est devant lui. Mmh. Et je pense que ça rentre en ligne de compte.
Très largement. Et ce qui est amusant, c'est qu'avant cette phase éliminatoire, il y avait un joueur irlandais, Robbie Keane, qui détenait le record. C'était 23 buts en phase éliminatoire UEFA et qui lui avait demandé « laisse-moi ce record ».
C'est sympa.
En fait, si on compte la phase éliminatoire plus les phases finales, Ronaldo est devenu hier le seul meilleur buteur de l'histoire de l'Euro. Quoi. Mmh. Alors effectivement, il y a plus en plus de matchs, mais ils mettent de plus en plus de buts. Donc,
ça, c'est incroyable.
Il suit la cadence, en fait, de l'étirement du calendrier.
À 34 ans, c'est surtout ça qu'il faut dire. À 34 piges, est-ce qu'il est capable de donner
physiquement. Il a dit qu'il jouerait jusqu'à 40 ans, vous le savez.
Mais vous savez qu'avec avec la forme physique qu'il a, son hygiène de vie, il n'est pas à l'abri d'un pépin, mais franchement, sur ce qu'on voit aujourd'hui de lui, c'est la manière dont il prend soin de lui, de ce qu'il est capable de donner physiquement, c'est faisable. Mmh. C'est largement faisable.
Et puis, il sait bien se gérer, c'est-à-dire qu'il sait mieux gérer ses temps faibles maintenant qu'il a la trentaine bien sonnée. Ils sont plus nombreux, mais il sait bien les gérer. Mmh. Il connaît son corps parfaitement. Donc c'est ça qui est fort. Plus peut-être que les buts en eux-mêmes, parce que la faiblesse des adversaires, faut la rappeler. Mais c'est cette capacité. C'est le meilleur gestionnaire de lui-même, quoi. Mmh. C'est-à-dire, il n'y a pas d'égal à part peut-être Zlatan. Il n'y a pas un joueur qui a la trentaine bien avancée qui est aussi performant.
Il y a notre ami et confrère Nicolas Villas qui a tweeté d'une manière amusante en disant Cristiano Ronaldo dépasse un total de buts inscrits par Platini et Thierry Henry. À lui seul, il fait mieux que ces deux grands joueurs de l'équipe.
Ça
de
veut
France.
Dire beaucoup de choses.
Ouais, mais il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a Giroud qui arrive et il empile. Sur un attaquant, évidemment.
On n'a pas les rires enregistrés. Il est...
Non, mais nous, on le comprend, Nabil.
Le TCR a été pris au dépourvu. Là.
C'est pas comme sur Twitter, où on a l'air de pas toujours le comprendre. En tout cas, notons donc que le Portugal redresse la barre dans ses éliminatoires, parce que champion d'Europe en titre, ils étaient un tout petit peu mal partis. Ils avaient mal commencé, on va dire. 2-0 contre l'Ukraine et la Serbie. Ouais. Et maintenant, ils sont deuxième de leur groupe derrière l'Ukraine.
Et de toute façon, ils devraient se qualifier. Y a pas de...
Avec, sans doute avec la Serbie. Qui a aussi repris sa marche en avant.
Ben, on verra qui passe de ces deux équipes. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Ali Gastier. Moi, je le trouve stupide, le tweet de Nicolas Villas. On compare pas les époques et aligner Henri plus Michel Platini, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même registre que Cristiano Ronaldo.
Mais
à ce moment-là, on peut dire aussi qu'il a marqué combien? 92 buts? Ben, 92 fois plus de buts qu'un mec qui a marqué qu'un but. On peut faire tout dire aux statistiques. Mais... Je trouve que comparer et mettre Thierry Henry plus Michel Platini pour dire, bon, voilà. Il en a fait de meilleur, Nicolas Villas, il en fera de meilleur.
C'est pas pour rabaisser Platini et Henry, mais c'est surtout pour mettre en avant la performance absolument stratosphérique de Ronaldo. Et ensuite, pour les jeunes générations, et je trouve ça plutôt intelligent de sa part, si nous, générationnellement, on connaît ces joueurs, peut-être que certains vont aller se plonger dans le passé, voir qui était Platini, même si ça peut paraître choquant
que
de
Thierry
dire
Henry,
ça.
Thierry Henry, pourquoi pas, bien sûr. Et même rien que Puskas, ça, il aurait pu se contenter de ça. Il a marqué presque deux fois plus de buts que Thierry Henry. Mais...
Faisons un sondage grand public. Puskas, qui connaît Puskas, qui est capable de vous dire qu'il était hongrois.
Les époques
n'étaient pas les mêmes. Non, mais Olivier, il y a un...
Juste Fontaine a marqué 13 buts dans une Coupe du Monde, donc il calme et Messi et Ronaldo à ce moment-là.
Ce qu'on veut dire, c'est que ça permet...
Il y a une liste qui existe, et voilà, on parlait de cette liste et de ses records. Ça nous permet de se
replonger dans l'histoire du football aussi, et c'est agréable.
Enfin, nous, on trouve ça agréable. On passe tout de suite, eh bien, au bleu. Grosse ambiance hier soir au Stade de France avant le début du match, ce clapping pour saluer un 100e match de l'équipe de France. On vous en parlait hier, 100e au Stade de France, inauguré il y a 21 ans. C'était donc la 66e victoire des Bleus dans ce stade contre Andorre. Alors un adversaire un peu facile, on va y venir. Mais le match comptait pour les éliminatoires de l'Euro. Victoire 3-0. La note aurait pu être sans doute plus lourde, mais le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, préfère à votre micro, Olivier Pont, retenir le résultat.
On a fait le travail, il n'y a pas de quoi s'enflammer non plus, mais en tout cas, on a vu un visage de l'équipe de France séduisant, encore plus face à l'Albanie que ce soir, mais après, voilà, le contexte également fait qu'on a joué contre une équipe très regroupée, et il y avait très peu d'espace à exploiter, mais malgré ça, voilà, on s'est créé beaucoup d'occasions, le score aurait pu être beaucoup plus flatteur, mais voilà, on prend ces trois points, également ces trois buts au goal average fera du bien, et maintenant, on se positionne bien avant le rassemblement du mois d'octobre qui sera décisif.
Deux matchs des Bleus, 6 points, 7 buts. Est-ce que la mission est accomplie, Olivier Pron?
Ah bah oui, parce que même si c'est face à de petites équipes, il y avait 3 points à prendre à chaque fois. Ils en ont pris 6. On les avait quittés sur une fausse note au mois de juin, même s'ils étaient allés ensuite gagner en Andorre, où des tas d'équipes ne gagnent pas si facilement, et en tout cas pas 4-0. C'est une pelouse compliquée, un terrain assez surprenant. Donc voilà, c'était le demi-test, c'était contre l'Albanie. Ils ont gagné 4-1 en produisant du beau jeu. C'était un match assez agréable à suivre. Hier, c'était... ça pouvait être beaucoup plus compliqué. On a vu qu'en Turquie, l'Albanie n'a perdu 15-0 à la 89e minute.
Andorre.
Pardon. En Turquie, Andorre n'a perdu 15-0 à la 89e minute.
Non, ça va, alors. Ça nous rassure.
Heureusement. Et c'était pas l'Arménie, alors. Donc voilà, c'est une équipe, on l'a vu encore hier, qui joue même pas à 10 derrière, à 11 derrière. Et à 11 derrière, il faut savoir faire sauter le verrou. Et les Bleus ont eu le mérite de le faire sauter dès la 18e minute, à 1-0. On savait qu'il allait avoir derrière des buts. Ils auraient mérité 4 ou 5-0. Il y a 2 barres transversales, il y a un pénalty stoppé. Ouais, voilà, ils ont dominé de la tête et des épaules. Ils ont fait le métier.
Naïm, ouais. bilan comptable d'ailleurs. Oui. Pour l'instant, après on reviendra aux individualités. Bilan comptable positif.
Hein, Olivier l'a dit, 6 points sur 6, 7 buts marqués, hein, encaissés. Vous avez évidemment pas été mis en danger. Vous avez produit du jeu sur le premier match. Les joueurs qui arrivent ont marqué des buts. Ceux qui sortent du banc ont marqué des buts. En même temps, ceux qui n'étaient pas là n'ont pas franchement perdu de points. Donc voilà, tout le monde sera à peu près content de ça. Moi, j'aurais aimé, mais à titre personnel, voir Deschamps faire jouer Guendouzi, mais bon, tant pis, on y reviendra pour un autre rassemblement. Ikoné a été très bon, par exemple. On a parlé avant la sélection, on se dit qu'est-ce que ça vaut, machin, il y a de la concurrence, un but, une passe décisive, bravo. Ça veut pas dire que Deschamps va le reprendre systématiquement, mais au moins, Deschamps sait qu'il peut compter sur lui, donc voilà. C'est des rassemblements positifs, mais, à titre personnel toujours, qui ne servent pas à grand chose. On n'a pas vraiment d'enseignement sur un match comme ça, ni sur le jeu des Bleus, ni sur ce que les Bleus sont capables de produire face à une plus grosse opposition.
On a quand même un enseignement, c'est qu'il y avait beaucoup d'absents, qu'il y a donc beaucoup de retours, beaucoup de jeunes.
Ouais, les mecs qui reviennent et qui sortent du banc,
qui se sont montrés à la hauteur. Et ça, c'est le principal enseignement. Il y a un groupe qui est quand même où il y a de la réserve.
Oui, et puis ça peut donner des idées peut-être à Didier Deschamps, puisque il connaît comment chacun de son côté, je trouve, était performant et surtout décisif. Et ça peut donner peut-être l'idée d'un 4-3-3 plus offensif plutôt que le 4-2-3-1 avec Matuidi en quatrième milieu pratiquement.
Parce qu'on lui a posé la question, c'était dans le reportage diffusé ce matin, et il disait qu'il se réjouissait à l'idée que ce rassemblement puisse donner des mots de tête à Didier Deschamps pour les rassemblements futurs.
Ouais.
Et ça prouve qu'on a un groupe. S'il a des difficultés à choisir, on va pas s'en plaindre. C'est un choix de roi.
Je pense que paradoxalement, Didier Deschamps a rarement des mots de tête quand il fait ses listes. Je pense qu'il
est pragmatique.
Il est très pragmatique et il s'embarrasse pas trop en fait.
Oui, mais peut-être que lui aussi lui revient une certaine palme à tous ses résultats, Nabil, parce que il a quand même des absents notables. On pense à Kanté, on pense à évidemment Mbappé et à Pogba.
Évidemment.
Et malgré tout, il aligne une équipe de gens qui gagnent un match, quoi. Et finalement,
il faut
le gagner.
Et qui montre de l'envie.
Voilà.
Aucune suffisance,
et
de la patience et une certaine créativité samedi.
Il y a quelques insuffisances, par contre. Mais on va en parler après.
Ouais. Alors, c'est vrai, mais je veux pas doucher l'atmosphère. Je rappelle quand même qu'on a perdu en Turquie avec un manque de résultats.
On attend tous le match retour, d'ailleurs.
Ouais. Et d'ailleurs, moi, j'attends surtout le mois d'octobre pour être franc avec vous, puisqu'il va y avoir une double confrontation face à la Turquie et l'Islande. Après, sur la densité, le réservoir du football français, il y a aucune surprise. On a des joueurs, c'est plus qu'un plan B. Je veux dire, quand tu mets Tolisso et Matuidi.
Oui, mais c'était peut-être ce qu'il a manqué un certain temps. Par exemple, à l'Euro 2016, est-ce que ça manquait pas un peu de temps à l'équipe de France?
Oui, c'est vrai. Il y a des joueurs qui ont émergé depuis. Puis aujourd'hui, on parle de Ikoné et comment, mais vous savez, en réserve de la République, et Martial et Dembélé qui pourraient revenir. Enfin, je veux dire, c'est assez fantastique.
Il y a même un deuxième Dembélé qui pourrait jouer en attaque.
Enfin, il y en a partout.
Il y a du choix.
Il y a vraiment. Non, mais là où il est fort, c'est qu'il arrive à choisir sans que ça fasse forcément scandale. C'est-à-dire que comme il a tellement de crédit aujourd'hui, parce que Lacazette, par exemple. Lacazette, c'est un joueur de niveau international. Alors, certains peuvent y mettre des réserves, mais c'est un buteur d'Arsenal. C'est quelqu'un qui tourne à 20-25 buts de moyenne par saison. Il est pas là, personne n'en parle. Giroud, il joue pas dans son club. Il est là, ça pose pas de problème.
Mais Giroud, non, il marque.
Giroud, il est à 5 buts oui, de Michel Giroud, Platini. Je dis ça pour Nicolas Villas, s'il nous entend.
Je suis d'accord avec vous.
C'est d'ailleurs son objectif.
Non, mais il a réussi. Non, mais c'est-à-dire que si on vous dit ça de manière rationnelle de n'importe quelle sélection nationale et vous connaissez pas le vécu ni le contexte, on vous dit, ben, il y en a un, il est remplaçant à Chelsea, l'autre, il est titulaire à Arsenal. Celui qui est titulaire, c'est celui qui est à Chelsea. Ouais. Bah, beaucoup de gens seraient surpris.
36 buts en 93 sélections.
Lui, il a réussi à rendre ça normal. Oui, c'est ça qui est fantastique.
Moi, je comprends ce que tu dis, Nabil, et sur le papier, t'as presque raison, mais on pourrait même parler de Ben Yedder qui pourrait être là plus souvent parce que lui aussi c'est un très bon attaquant de pointe. Le truc c'est que quand je dis qu'il s'embarrasse pas des chances, c'est que même si des joueurs arrivent en sélection, Marc et Brie, il prendra toujours son socle de base. Giroud il est dans le socle de base. Arsenal, Lacazette il marque avec Arsenal, puis Giroud il est remplaçant avec Chelsea.
Enfin,
En étant remplaçant à Chelsea, il a fini meilleur buteur d'une Coupe d'Europe la saison dernière. Et c'est ça que Deschamps regarde.
Naïm, ce qu'on se dit aussi c'est que on se souvient des critiques émises envers cette équipe championne du monde en 2018 et on se dit est-ce qu'en 2020 on va pas arriver à une équipe plus peaufinée par Deschamps et peut-être plus joueuse, plus offensive.
Alors, plus joueuse, plus offensive peut-être, faudra regarder. Après il y aura deux ans de plus qu'en 2018, donc des joueurs qui se connaissent mieux, qui ont plus joué
genre
ensemble.
Genre 1998 et l'an 2000, c'est ça que vous...
Par exemple, en 2000, oui, c'était quand même plus abouti qu'en 98. Ouais. On espère aussi que 2020 sera plus abouti que 2018. Après Deschamps, sa marque de fabrique, c'est pas le jeu, c'est la victoire.
Oui, parce que
des
grands joueurs, il en a plein. Depuis qu'il est arrivé, il a très bons joueurs. L'équipe de France n'a peut-être pas toujours été aussi forte qu'aujourd'hui, mais il a toujours eu des grands joueurs. Mais la marque de Deschamps, c'est la victoire, c'est pas le jeu. Et qu'il peut avoir tous les meilleurs attaquants du monde, et Dieu sait qu'il en a aujourd'hui. Si la Coupe du Monde 2020, les adversaires qu'on a, la physionomie de la compétition passe par jouer mal et gagner, c'est ce qu'il fera.
Euro 2020. La différence, quand même, c'est qu'entre le Mondial 98 et l'Euro 2000, il y avait eu un changement de sélectionneur. Roger Lemaire avait remplacé Aimé Jacquet. Et là, il est logique que quand il y a un changement de sélectionneur, le nouveau veuille imprimer sa marque et un peu créer des ruptures ou des évolutions avec le passé. Là, Didier Deschamps, son défi, c'est d'arriver à faire évoluer cette équipe pour qu'elle ne soit pas, elle ne devienne pas prévisible, pour qu'il n'y ait pas de lassitude et qu'il n'y ait pas un effet un petit peu de sénateur dans le groupe où les joueurs considèrent leur place comme acquise définitivement. Et ce genre de match où il y a des blessés, où on fait rentrer des jeunes ou des joueurs sur le retour comme Tolisso, ça fait du bien à un groupe. Ça permet d'éviter que tout le monde se croit intouchable.
Le match de samedi contre l'Albanie, c'est comparable à la Coupe du Monde, au match contre le Pérou ou contre l'Australie, où l'équipe de France avait eu un mal fou à gagner ces matchs-là en produisant rien. Là, au moins, on a produit du jeu. Il y a victoire facile. Ces matchs-là, c'est ce qu'on les a questionnés là-dessus hier. Ces matchs-là, dans ces éliminatoires-là, l'équipe de France s'est rarement promenée comme elle s'est promenée. Il y a l'accro de Turquie, on en a beaucoup parlé.
On va attendre la Turquie. Ça va être intéressant d'ailleurs.
Ça peut arriver. Ils ont tous reconnu qu'ils étaient passés à travers. Ils ont le droit de passer au travers d'un match.
Oui.
Pour le reste, ces éliminatoires sont exemplaires. C'est 4 buts par match. On en est à combien? 18 buts marqués en 4 victoires.
Oui,
et surtout, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui marquent autant. Et je dirais, j'ai vu encore cette stat, l'équipe de France depuis le début des éliminatoires a subi 25 tirs subis. Il n'y a pas une équipe de tous les éliminatoires qu'on a subi aussi peu. Donc ça veut dire que
Deux choses. Ça veut dire que la formule des éliminatoires de l'Euro est une aberration, disons-le clairement. C'est-à-dire qu'on a sur des poules de 6, il y a une bonne équipe.
En général,
une
moyenne, on sait
deux équipes moyennes.
L'aberration, c'est l'Euro à 24. C'est l'Euro à 24 qui fait qu'on a ces éliminatoires.
Mais on pourrait avoir, comme en Afrique, un tour préliminaire où on dégage les équipes plus faibles, disons-le clairement. Et ça donnerait en plus, tous les 2 ans ou tous les 4 ans, un match en jeu à des petits pays. Là, il n'y en a aucun. Et ensuite, c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas quand on regarde ces éliminatoires. Ça, c'est à mettre au crédit de Deschamps. Alors que, rappelons-le, le France-Luxembourg des précédentes éliminatoires qui étaient abominables.
Enfin, France-Andorre, c'était pas non plus inoubliable.
Non, mais il y avait des buts, il y avait un peu d'action.
Il y a 3-0, encore une fois. Il n'y a pas une équipe. Andorre a encaissé 14 buts depuis le début de ses éliminatoires en 6 matchs. La France leur en a mis 7. Ça veut dire que finalement, dans les 5 autres matchs, ils n'ont encaissé que 7 buts. Donc, on colle pas des raclées en Andorre.
Saint-Marin,
la France
a mis
4-0
28.
Et 3-0. Voilà. Donc,
alors, qui a marqué le plus de points sur ces deux matchs? En tout cas, le grand gagnant, à notre avis, de ces deux soirées, et sans nul doute.
Changement pour l'équipe de France, avec la sortie du numéro 11, buteur ce soir, Kingsley.
L'attaquant aux 3 buts en 2 matchs, Kingsley Coman, Nabil, selon vous, c'est le meilleur, celui qui, disons, des remplaçants, a marqué les esprits le plus.
Évidemment, c'est un garçon que Didier Deschamps a toujours apprécié, mais il a été freiné malheureusement à 23 ans par beaucoup de blessures.
21 blessures, ouais, hein, 3 saisons on avait.
Et pensé, d'ailleurs, c'est ce qui va conditionner le reste de sa carrière, en espérant qu'il n'y ait pas de
rechute.
Il
le dit hein, d'une certaine façon.
Oui, c'est un garçon qui l'a dit, il s'en est pas caché, il a pensé même à arrêter le football, parce qu'à un moment c'est éprouvant et épuisant moralement. Il est dégagé de la concurrence entre guillemets de Ribéry, de Robben qui ont quitté le Bayern de Munich, donc il peut. C'est vrai que c'est des monstres, hein. TDR, Ribéry, Ronald, c'est pas honteux.
Avec le Bayern,
c'est pas honteux, quoi. Donc, et c'est un garçon qui apporte de la variété. On a vu, enfin, ici, on a vu tous ses qualités. Il percute, il élimine facilement. Il a des appuis assez fantastiques. Il défend également. Didier Deschamps a forcément une idée derrière la tête puisqu'il il a toujours été dans les radars. Et oui, lui, il a marqué fortement des points. Mais il y en a un autre qui a marqué des points. Non pas pour être à la porte des titulaires, parce que comment je pense que c'est le super sub pour l'instant dans l'histoire. Je trouve qu'il connaît. Moi, je suis Thauvin ou d'autres, je suis pas bien. Mais je vous le dis comme
oui,
je le ressens.
Oui, mais là, on connaît,
je
suis d'accord.
Il connaît comment. Ils sont quand même soumis à la concurrence d'Mbappé, de Dembélé et de ce que Deschamps appelle le socle et les indéboulonnables.
Oui, mais comme c'est Mathieu dit. Dans ce qu'il a montré là, sur ces deux matchs-là, c'est évident que ce gars, quand il est en forme, et pourtant, enfin, pour ceux de nos auditeurs qui ne le côtoient pas, c'est un petit gabarit, hein. C'est très très marrant. C'est-à-dire, on comprend quand on le croise cette vivacité qu'il peut avoir.
On le voit à la Marseillaise, je sais pas, c'est assez amusant comment c'est filmé. On a Varane,
c'est pas un monstre physique, on comprend les soucis physiques qu'il peut avoir, mais quel talent balle au pied. Sur ce rassemblement-là, encore une fois, face à l'Albanie et Andorre, il a quand même régalé quasiment
le ballon. À chaque fois qu'il joue, il régale Kingsley Coman, Nabil a raison. Le truc, c'est que lui, la concurrence, elle paraît indéboulonnable. Alors que moi, je trouve que celui qui a vraiment marqué des points, pour moi, c'est l'Anglais.
La concurrence de Matuidi pour Coman, elle est moins indéboulonnable que celle de
Matuidi pour Coman. Bah, non, mais tu sais que quand Dembélé va jouer, c'est Dembélé qui sera là.
Ah, pas forcément.
Bah, si, quand Deschamps, quand
Dembélé,
Ousmane Dembélé, quand il est physiquement
très loin,
il part de très très loin, mais quand il est physiquement au top,
non. Hygiène de vie par rapport aux critères de Deschamps, t'es un peu présomptueux.
Non, je suis pas présomptueux parce que j'ai vu là,
je pense que Coman,
cadre
Dembélé à quelques.
On est dans ton esprit, mais pas dans l'esprit de Deschamps. Et Dembélé au top physiquement en équipe de France, et ben je m'avance peut-être, on verra. Mais Dembélé au top en équipe de France,
j'aime pas être en conflit avec Naïm, mais là,
non, tu pourras.
Je demande que ça.
Non, mais Dembélé,
on en boit deux si tu veux.
Dembélé, il est plus talentueux dans l'absolu que Coman, même si Coman, ça reste phénoménal et on s'en rend pas compte parce que c'est des jeunes joueurs, hein. Ils sont très jeunes. Sauf que l'ami Dembélé, aujourd'hui, on parle plus de lui en dehors du football qu'est dans le football. Alors s'il revient au top,
lui
on sait très bien.
Blessé.
Ouais, mais moi je lui souhaite de revenir au top. Mais moi je pense que Deschamps, on l'a bien vu, c'est pas forcément le plus talentueux qui joue. Parce que si il y en a un qui est à 9,5, c'est Dembélé, et l'autre il est à 8,5, si comment cadre avec ce qu'il attend, ça sera comment qu'il sera sur le terrain.
Si Dembélé revient en équipe de France comme il l'a été une époque quand il était opérationnel avec le Barça, il sera titulaire dans l'esprit de Deschamps.
Oui, il a jamais
marqué. C'est dans 9 mois.
Il y a beaucoup de pour répondre à votre question de base, Annie, pour moi celui qui a marqué le plus de point quand même, c'est Clément Lenglet, parce que lui,
alors
il a complètement éteint la concurrence de Titi.
Ah d'accord, on va passer à l'arrière.
D'accord, je vous suis.
On va même l'entendre.
On descend vers les postes arrière.
Donc voilà, parce que il y avait, je me disais, on a remarqué aussi ce matin quand on préparait l'émission, on s'est dit bon, il y a Ikoné, Dubois aussi, on évoquait peut-être Tolisso.
Il n'a pas été bon Dubois.
Non, Tolisso a été
très bon. Non mais il connaît la marque.
Neymar a de sympathiques fulgurances, mais ça n'aboutit pas à grand chose. C'est une conversation qu'on a eue samedi soir après le match avec Vincent Duluc notamment, et qui trouvait ça, et il a pas tort.
Le meilleur
il se
Thomas
passe des choses quand il touche le ballon. Le problème c'est que il ne touche pas toujours là où il veut.
Le meilleur Thomas de l'Atlético, c'est Partey, hein, c'est pas Neymar.
Ouais, Annie, c'est pas un hasard s'il le met titulaire contre Andorre. C'est qu'Andorre, mais c'est pas le problème, c'est un joueur qui vient d'arriver. Bah, Deschamps, il récompense pas ou il donne
pas.
Non,
mais il met titulaire.
Il connaît. Je veux dire.
Ah oui, si veut l'intégrer.
Je reste sur Ikoné. S'il veut l'intégrer progressivement, il est rentré en cours de match contre l'Albanie et puis il lui redonne 10 minutes, un quart d'heure. Il l'a remis titulaire au profit d'autres.
Donc
ça veut dire qu'il a une idée dans la tête. Il veut le voir. Et même si c'est Andorre, il veut le voir. Pourquoi? Parce qu'il cherche des joueurs sur les côtés, des ailiers. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, et je suis pas sûr trop de me tromper, c'est pas qu'il va pas faire de sentiments. Il a ses soldats, il a un groupe. Mais un garçon comme Thauvin, par exemple, si en plus, là, vous me dites qu'il a une...
Thauvin, vous le savez, 4 mois d'arrêt à peu près, il va être opéré de la cheville
gauche. S'il l'a pas opérationnel et pas au top pour l'Euro, C'est-à-dire comme il a fait.
Pas d'état d'âme.
Ouais, il prendra Ikoné. Et Ikoné, c'est pour ça qu'il l'a mis. C'est pour le voir. C'est tout sauf un hasard.
Ikoné, exemplaire, avant match dans sa semaine, un plaisir de fraîcheur.
On le sent
extrêmement
films,
respectueux. Voilà, un type qui s'est fait des films, ça a été le running gag, le, comment on pourrait traduire ça en français,
oui,
la blague de la semaine. Et même encore hier soir, puisqu'il avait raconté que 3-4 jours après être arrivé, donc avant le premier match, il se faisait des tas de films dans sa tête, et puis après samedi, c'est la blague, c'est lui qui nous a dit bah, j'aimerais bien que le film maintenant devienne une série. Et hier, je lui ai demandé, je lui dis bah, on a eu le deuxième épisode, et il dit bah, j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Mais une fraîcheur, un garçon qui vient deux fois à la rencontre des journalistes après deux matchs, c'est rare. Il est en plein apprentissage, pourvu qu'il ne change pas, mais un but après 8 minutes face à l'Albanie et une passe décisive pour magnifique hier alors qu'il est titulaire pour la première fois, voilà. Et puis quand il vous parle de la Marseillaise, sa première Marseillaise, il est à deux doigts de pleurer. On sent que voilà, c'est un garçon qui est aux anges, pourvu qu'il le reste le plus longtemps possible.
C'était surtout sa première albanaise, quoi.
C'était sa première Marseillaise. Jelit.
À l'arrière, eh bien, une valeur montante, vous l'avez déjà dévoilée, mais on voulait effectivement parler du défenseur central du Barça, Clément Lenglet. Eh bien, à votre micro, Olivier, il était
charmant garçon,
heureux d'être chez les Bleus.
C'est toujours important de faire des bons matchs, même contre des petites équipes, en tout cas présumées moins fortes que la nôtre. On a aussi été intéressant dans le jeu. Sur le premier match contre l'Albanie, je pense qu'on a montré des belles choses. Aujourd'hui, c'était plus compliqué parce qu'ils étaient encore plus bas et plus resserrés derrière, mais on a été patient. On s'est procuré quand même pas mal d'occasions face à un groupe très bas, donc c'est très positif, je pense.
Alors, c'est une alternative pour l'instant parce que Samuel Umtiti, champion du monde à ce poste, a l'air de souffrir toujours et beaucoup de son genou. D'ailleurs, il ne pourra pas jouer ces prochains jours au Barça. Il était retourné à Barcelone se soigner. Est-ce que Clément Lenglet, qui a déjà volé la place d'Umtiti au Barça...
Je suis chagrin pour Samuel Umtiti parce que c'est un pépin physique, c'est un super bonhomme. J'espère qu'il reviendra, qu'il y aura une vraie concurrence.
Bien sûr, mais
Lenglet, il a marqué beaucoup de points très vite.
Lenglet, il est extraordinaire. Il sait tout faire, en fait. Il sait défendre, il sait défendre au sol.
Puis alors, l'entente avec Griezmann, les deux qui sont maintenant dans le même club, c'est assez magique.
Il sait défendre dans les airs, il relance bien, il rassure. Moi, franchement,
en plus, il a marqué.
Je trouve que
et
ça fait longtemps.
Avec Varane,
mais c'est ce que j'allais dire. Ça fait longtemps que t'as pas eu une charnière aussi complémentaire. Très sincèrement. Alors, lui, c'est pareil. Il méritait d'être en équipe de France depuis longtemps. Même à l'époque du FC Séville, il aurait mérité d'y être déjà. Mais là, ce qu'il fait, la manière dont il s'est imposé tranquillement dans un club comme le Barça, la manière dont il s'impose tranquillement en équipe de France, il est d'un calme, d'une sérénité. Il est jeune en plus. Moi, c'est 100% de oui. Il est extraordinaire, ce joueur.
Non, mais en plus, sa communication a été intelligente par rapport à Laporte, où malheureusement, pour l'instant, tout est contrarié. Il fait penser un peu à Mexès à l'époque, il y a quelques années, où il se blessait avant des regroupements ou des sélections. C'est un garçon qui n'a rien réclamé, qui est venu en plus comme avec un statut de remplaçant du côté du FC Barcelone. Il a gagné sa place. Malheureusement, le malheur des uns font le bonheur des autres. Et bon, il est bon, il est en train de s'installer. Mais on n'a pas été inquiet, même si c'est pas Lenglet, ça sera d'autres, parce qu'aujourd'hui, on parle du réservoir offensif français, mais c'est phénoménal.
Mais derrière, dans l'axe. Parce
dans
que
l'axe,
sur
dans
les
l'axe,
côtés, c'est le désert.
Dans l'axe, on peut vous citer, ici 5-6 noms très tranquillement, et il faut vraiment, vraiment être très fort pour être titulaire, en charnière centrale en sélection française.
Là, Lenglet, s'il a pas de blessure, je vois pas qui va le sortir. Il est talentueux à souhait, il a dans tous les compartiments en fait. Il est très complet. C'est qu'il y a d'autres Umtiti a une puissance rarement égalée.
Alors on a
fait
de le voir face quand même à la plus grosse équipe, hein. Trois sélections pour le moment, mais deux fois en dehors
enfin des gros matchs, on a joué aussi avec le Barça.
Non, mais on est rendu à considérer qu'en octobre ce sont deux gros matchs.
Bien sûr,
on aurait jamais pensé à ça.
Oui.
Alors dernier petit paragraphe sur cette équipe, sur ces Bleus, c'est Antoine Griezmann, titulaire incontestable, et pourtant hier il manque un deuxième penalty.
C'est le Sadio Mané français.
Alors il a été bien arrêté, nous dirait Joseph Antoine Bell, n'est-ce pas, hein,
oui,
très bon gardien qu'il a bien arrêté.
Gomez, il était très bien bon gardien.
Mais c'est vrai que c'était, il était d'ailleurs assez.
Il a joué en CFA2 dans un club près de Marseille.
Le gardien
Mirabeau,
d'Andorre,
je crois. Oui.
Ah ouais, bonne info.
En tout cas, Olivier Giroud, qui l'avait pourtant incité hier à se rattraper, eh bien Olivier Giroud vous a dit, Olivier,
qu'est-ce qu'ils m'ont dit des choses, ça change du PSG, dit donc.
Finalement,
de France.
Peut-être que lui pourrait tirer.
Avec Giroud, penalty. Allez, il est pour toi. Et oui, évidemment, il a raté face à
ce soir, j'ai pris le ballon et je lui ai donné pour parce que je sais que quand tu as l'opportunité de tirer un pénalty quelques jours après en avoir raté un, c'est important pour la confiance de se remettre dedans. Malheureusement, le gardien fait un bel arrêt. Mais on va voir la prochaine fois, pourquoi pas, je suis un prétendant, on verra.
2-0 et toujours pas pour Antoine Griezmann. Toujours pas, cette fois-ci il a voulu le placer et il préfère en sourire avec Olivier Giroud.
Voilà, un peu d'humour.
Mais évidemment, et ils l'ont tous pris avec humour, tous ceux à qui la question a été posée hier, mais ils en riaient, ils s'en tamponnent complètement de voir Griezmann. Ah, je peux vous dire, il nous en a marqué tellement des importants, que ce qui compte nous, c'est qu'il nous marque les importants, et ils ont aucun doute sur le fait qu'il soit tellement fort dans sa tête que, bah voilà, ça reviendra.
Ouais, bah c'est pas,
c'est pas un très gros problème.
Si jamais cette difficulté se poursuit en club, c'est-à-dire si par exemple le prochain penalty qu'il tente avec le Barça, il le rate, je pense qu'il va
arrêter
un certain temps de les tirer, et quelqu'un d'autre peut le faire à sa place. Maintenant, ce qui est un peu bizarre, c'est quand même la manière dont il a tiré, parce que les joueurs sont sympas avec lui. Il parle d'un très bel arrêt du gardien, ce qui est vrai. Il est parti du bon côté, mais
c'est un mauvais tir.
Très mal tiré parce qu'il a.
Il a tiré à mi-hauteur, oui.
Il a tiré à mi-hauteur avec une course très courte qui masquait en rien ses intentions sur le côté.
Excès de confiance.
Il était un peu trop décontracté, en fait.
Parce que celui de samedi, il prend la barre, ça peut rentrer derrière.
C'est sûr.
Ça arrive. Hier, je pense qu'il s'est dit, bon, de toute façon, j'en raterai pas deux.
Un peu désinvolte. Voilà.
Après, moi, ce que j'aime, c'est Griezmann, il est là pour ça. C'est que derrière, il n'y a pas de décisif dans les deux matchs. Il reste présent. Il se décontenance pas du tout.
Oui, c'est pas
il
très
est,
grave.
Il est quand même très présent.
C'est pas un pénalty qui prive l'équipe d'un point.
C'est un type qui revient dans son camp chercher les ballons.
Oui, et puis c'est anecdotique parce que ça prive pas l'équipe d'un ou deux points. Donc, de toute façon.
Naïm, si c'est pas Griezmann qui les tirerait en équipe de France?
Giroud, Mbappé. C'est généralement.
Pogba
n'a pas plus de réussite avec Manchester United, vous me direz en ce moment. Donc je pense que Giroud et Mbappé, enfin surtout Giroud d'ailleurs.
De toute façon, plus de tireur de pénalty.
Non, on manque pas. Non, mais on manque pas de talent, on manque pas de tireur.
Mais
de
même penalty. Griezmann, il a des. Enfin, c'est un péché, un manque de concentration parce que c'est quand même un geste technique. Et s'il y a bien un joueur qui a de la technique dans l'équipe,
c'est bien Griezmann. Si tu te rappelles bien, au début, quand il est arrivé à l'Atlético, dans les gros matchs, il a raté quasi tous.
Et puis à un moment donné, ça. Quatre de suite.
Il avait dit qu'il avait trouvé un truc.
Voilà. Une fois, ça s'est débloqué. Il les a enchaînés. Bon, là, il en a raté deux. C'est très psychologique,
c'est le
penalty.
C'est le mojo du penalty. Ouais. Bon.
On verra donc cela. Olivier, donc les dates importantes pour cette
équipe de
France.
11 octobre en Islande. Alors, c'est vrai que la défaite de l'Islande hier en Albanie tue un peu
l'Albanie. L'Albanie à domicile, c'est chaud.
L'Albanie à domicile. Bon, l'Islande, la France avait gagné 4-0 au match aller. En Islande, puis trois jours plus tard, ça, c'est quand même le gros match. Il faut trouver des gros matchs là où on peut. Ouais. Mais c'est vrai que le France-Turquie. Peut-être que si la France gagne en Islande, les deux équipes seront qualifiées, assurées d'être dans les deux premières, mais il y aura un petit côté revanchard.
C'est amusant.
Le Konya est mal passé, ce non-match des Bleus, le néant comme disait Didier
Deschamps. Et la Turquie qui aura l'avantage de jouer deux fois à domicile. Jouer la France au Stade de France, je pense qu'il va y avoir des supporters turcs.
Turquie, en plus que les Français ont très très envie de remettre les pendules à l'heure.
Non, mais il y a aussi cette année, il y a plusieurs rendez-vous franco-turcs, puisqu'il y a Galatasaray, PSG en Ligue des Champions, donc ça risque d'être des voyages intéressants.
Et vous savez quoi, on y sera.
Y compris pour les journalistes, n'est-ce pas?
Eh ben voilà, rendez-vous est pris donc pour ces Bleus et ces réunions d'éliminatoires, on va dire.
Je peux y aller, madame?
Oui, merci, au revoir Olivier Ponce, vous avez vu, il arrive.
Quelle discipline.
Il demande la permission, polycorrect.
Merci.
Quelle rigueur.
Beaucoup, Olivier. Allez, on va prendre la direction du continent africain. Je crois que ça vous plaît, tous les trois. Pour les grandes équipes, il y a eu beaucoup de matchs amicaux. C'était pour les meilleurs du continent. Et puis, des matchs de tour préliminaire pour pouvoir disputer les qualifications en vue de la Coupe du Monde 2022. 14 équipes se sont qualifiées à l'issue de ces préliminaires, alors que 26 autres, donc les grandes, entre guillemets, sont qualifiées d'office pour les éliminatoires. 5 équipes seulement, on le rappelle, iront au Qatar. 54 seront en lice. Mais alors, ce qui est amusant, on a décidé de commencer par cela, c'est que la première qu'on a retenue s'appelle Djibouti. Pourquoi? Parce que c'est un exploit tout petit pays de la Corne de l'Afrique, 1 million d'habitants quand même, coincé entre l'Éthiopie et la Somalie. C'est une première. Alors, ils ont battu
les Swatini.
Ex-Swaziland. Voilà, exactement. Je vais vous demander où c'était, mais finalement...
C'est en Afrique australe.
Hein, ça pas. A changé de nom récemment.
C'est en Afrique du Sud, en fait.
Oui, c'est voilà, c'est une enclave...
Enclave sud-africaine, voilà. Et ils ont donc zappé ce nom très anglais. Entraîné en plus par un jeune Français, Julien Mette. Alors, exploit, véritablement, pour vous aussi, de Djibouti,
oui.
Patrick ?
Alors, vous avez raison d'insister sur l'identité du sélectionneur, qui incarne cette relève des coachs français en Afrique, un peu dans la lignée des deux sabres, des... Minier, Patrice Baumel et c'est, tous ces gens-là. Gros exploit, effectivement. Il avait déjà fait des bons résultats avec l'AS Auto, un club congolais en Coupe africaine ces dernières saisons. Et c'est quelqu'un, je l'avais interviewé à l'époque pour Foot 365, c'est quelqu'un qui est un passionné de tactique, qui peut passer des heures à voir des vidéos de matchs anglais ou espagnols pour observer des innovations et essayer de les appliquer. Donc c'est quelqu'un qui est un amoureux du jeu. Et qui peut parler des heures des variétés tactiques de Guardiola. Enfin voilà, c'est quelqu'un de vraiment très focalisé là-dessus. Un peu un intellectuel, enfin un théoricien, mais qui est aussi un bon psychologue, qui sait s'adapter à un terrain qu'il connaît pas forcément au départ. Et on voit que la fédération djiboutienne essaye un peu de copier ce que fait la Mauritanie, puisqu'aujourd'hui la fédération a annoncé la nomination de Sarah Mbarek, que Nabil connaît
oui,
bien,
très sympa.
Comme sélectionneuse de l'équipe
j'avais
féminine.
Entendu. J'avais l'info,
donc,
je voulais pas donner.
Voilà,
j'étais au courant.
J'étais devancé.
Donc
ça montre que c'est une fédération qui essaye avec des moyens modestes de se structurer et c'est bien qu'ils recueillent des résultats de ça. Bon, hier, le match, je l'ai regardé en partie en zappant entre Zimbabwe-Somalie et ce match-là. C'était un peu une attaque défense. Les Swatini monopolisaient le ballon. Ils n'ont pas été assez efficaces pour trouver la faille. Et le Djibouti a bien défendu, a bien cassé le jeu en essayant de contrer quand il le pouvait. Bon, c'est. Ils sont qualifiés sur les deux matchs, bravo à eux.
Oui, alors Patrick a raison, c'était pas un grand match et globalement sur la double confrontation, on n'a pas vu du très grand football. Après, moi, j'ai vu pas mal d'autres matchs. J'ai vu le Mozambique face aux îles Maurice, j'ai vu le Botswana qui a perdu contre le Malawi, j'ai vu le Liberia qui s'est imposé contre la Sierra Leone. Très sincèrement, c'est pas au-dessus de Djibouti.
Non.
Et je pense que alors évidemment on va se retrouver dans une phase de poule avec les cadors qui arrivent, les grosses équipes, oui. Ça va être très difficile.
Le Togo et le Zimbabwe étaient peut-être
voilà.
Dessus, mais certainement
et un peu l'Angola.
Et l'Angola,
et l'Angola,
aussi.
Ouais,
l'Angola
mais globalement c'est une équipe qui voilà qui joue, qui a des moyens, qui se donne on va dire les moyens de faire ce qu'elle peut avec les joueurs qu'elle a
et qui travaille sérieusement surtout. On sent qu'il y a un début, un milieu, une fin quand
et
on
qui
les voit
sur une phase de groupe d'éliminatoire. Peut créer la surprise. Je dis pas qu'ils vont le faire, mais ils peuvent créer la surprise. Et globalement, la concurrence, quoi, celle que j'ai vue hier, c'est-à-dire les équipes les moins bien classées, puisque l'Afrique, contrairement à l'Europe, a l'intelligence de faire un tour préliminaire avant de démarrer ses poules. C'était pas forcément, franchement, en dessous.
Nabil, quand on a évoqué tous ces pays qui se sont qualifiés et ceux qui restent en rade, vous avez évoqué un pays qui est voisin de Djibouti.
Ouais,
c'est pour ça qu'on va faire une petite parenthèse. C'est la Somalie.
Bah, elle a failli créer la sensation quand même. Mm-hmm. Patrick a rappelé
contre
à juste titre que dans ces préliminaires, les équipes les plus fortes, c'était certainement le Zimbabwe et le Togo, et évidemment le Zimbabwe qu'on avait vu faire plutôt bonne impression à la CAN, même si c'était pas qualifié. Mm-hmm. Mais on
défensivement, c'était limité, mais dans le jeu, effectivement, ils avaient fait des bonnes choses.
Oui, face à l'Égypte notamment, ils n'avaient pas été surclassé. Alors on a vu que c'était pas une grande équipe d'Égypte, mais enfin c'est pas une raison. Je veux dire, quand on connaît aussi aujourd'hui la Somalie, jusqu'à présent ça a été quasiment rayé de la carte du football
ça
africain.
Ça faisait plus de 20 ans qu'il n'était plus présent.
On connaît malheureusement.
Et c'est le dernier du classement FIFA.
On connaît, voilà, on connaît malheureusement les difficultés voilà politiques et sécuritaires pour pas dire
de
plus
ce pays.
De ce pays, puisque déjà le match aller lui ne s'est même pas joué en Somalie, rappelons-le également. Et très sincèrement, ça s'est joué sur la fin. Quoi,
c'était un dernier quart d'heure incroyable. Le Zimbabwe qui fait enfin sauter le verrou avec un but de Mounetsi, le joueur recruté par Reims cet
été. Reims,
son premier but en sélection. Une énorme erreur défensive de relance des Zimbabwéens qui donne un but sur un plateau à la Somalie, qui croit avoir fait le plus dur. À ce moment-là, le Zimbabwe a besoin de deux buts. Il reste 6 minutes plus le temps additionnel. Et finalement, coup franc direct d'un remplaçant, Mouskoué, et surtout un but splendide de Kama Biliad qui a montré qu'après un match où il avait pratiquement pas été influent, là, le diable est ressorti de sa boîte et il a exécuté la défense somalienne d'une frappe croisée sublime et voilà, ça a fait 3-1, c'était la joie.
Moi, ça me fait penser
c'était beau.
ça me fait penser qu'il y a sans travail quasiment ex nihilo, le talent est en jachère en Afrique, il y a du talent partout. Je vais peut-être pousser la caricature, j'en sais rien, mais il se trouve il y a des Messi qui se cachent à Mogadiscio et jamais on les développera parce que un jour un gamin est né dans un bidonville du côté du Liberia, il est devenu Ballon d'Or. C'est extraordinaire quoi.
Messieurs, le Togo, alors la sélection de Claude Leroy a réussi à se défaire des Comores. Les Comores avaient arraché un match nul 1-1 et on se souvient que lors des éliminatoires de la CAN, ils ont rêvé à un moment d'y participer, mais les Comores avaient embêté un peu tout le monde dans leur groupe.
Mathématiquement, pendant un temps, ils étaient même virtuellement qualifiés. Bon, après, ça s'est pas bien goupillé avec le Cameroun et puis le Malawi, surtout ils avaient perdu leur dernier match. Bon, ça a pas mal changé. Le directeur technique, manager général est parti. Oui. C'est un petit peu
ils
en
ont finalement gardé le sélectionneur.
Ils ont gardé le sélectionneur, heureusement pour eux, mais c'est un petit peu une équipe qui se régénère progressivement. Bon, hier, il n'y a pas grand-chose à faire face au Togo. Je pense qu'ils ont raté le coche au match aller. Parce que si au match aller, convertissent leurs occasions, c'est plié. Le Togo a pas non plus été extraordinaire.
Et même hier, Ben Nabouane aurait pu égaliser. Il y a eu des bons sauvetages, des bons gestes défensifs, notamment du gardien. Ce qui fait aussi Barcola, un jeune gardien
de
qui
Lyon,
passé par l'OL,
qui est toujours, qui a signé son contrat pro en février dernier.
Donc, finalement, c'était un match pour ces deux équipes-là. Je trouve que c'était un match digne d'équipes qualifiées d'office pratiquement. C'est-à-dire le Togo et les Comores sont au-dessus, avec l'Angola peut-être.
Ouais, l'Angola aussi.
Au-dessus des autres dans ce tour préliminaire. Et c'est dommage qu'elles aient été opposées.
Parce que
je pense qu'avec d'autres adversaires, elles pouvaient passer chacune de son côté.
Ce qui fait aussi la différence au Togo, c'est les individualités. Parce que Gilles Sounou, parce que Dosevi, parce que vous avez à un moment donné les joueurs
là-bas.
Voilà, ces joueurs-là font la différence face à... Je critique pas les Comoriens, mais qui n'ont pas les mêmes individualités, mais collectivement.
Mais attention, des jeunes vont éclore, notamment formés en France.
Et les Comoriens, c'est ce que j'ai.
Mais oui, ils ont un gros réservoir à Marseille, l'Atlético Marseille. Moins de 17 et moins de 20 ans qui sont en train d'éclore dans des clubs, et ça peut être très prometteur pour les Comores.
Pour les éliminatoires de la prochaine CAN, c'est encourageant. Si Habib était là, il dirait il n'y a pas de défaite encourageante. Mais c'est vrai que ce qu'on voit globalement collectivement par les Comores, c'est une défaite qui laisse espérer d'autres victoires.
Et d'autres qualifiés qui vous intéressent, la Guinée
La Guinée-Bissau qui a effectivement réussi à rétablir la situation. Elle avait gagné à Sao Tomé. Elle a longtemps été menée chez elle et c'était un peu mal embarqué. Et dans les dernières minutes, dans le dernier quart d'heure, Joseph Mendes, joueur de l'AC Ajaccio, a marqué un doublé. Voilà, donc logique, il y a une certaine régularité qui s'est instaurée, c'est bien pour ce petit pays qui a fait les deux dernières CAN, effectivement. Bon, là, dans un groupe éliminatoire de 4 pour la Coupe du Monde, ça va être difficile, mais c'est bien déjà d'y participer.
Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a des équipes qui ont été éliminées au terme de scénarios incroyables. Moi, je pense au Botswana. Le Botswana, il fait un poteau de barre au match aller. Et il fait match nul, il fait un poteau de barre au match aller, éliminé au match retour. La Sierra Leone, elle a le pénalty de la qualification à la 92e face au Liberia et elle le rate. Et voilà, vous avez eu plein d'histoires comme ça, plein de scénarios terribles sur des pelouses incroyables avec des joueurs là qui ont des parcours.
Vous voulez dire que c'était plus intéressant que certains matchs des éliminatoires de l'Euro, si je comprends bien.
Ah bah complètement, oui.
Il y avait plus d'enjeux.
Il y avait plus d'enjeux et puis sincèrement, c'était quand même beaucoup plus équilibré avec beaucoup plus de suspense.
Et ça s'est même mal passé du côté de la Sierra Leone.
Oui, les joueurs ont été agressés. Il y a une sorte d'embuscade du bus des Libériens qui ont mis du temps à pouvoir sortir de leur bus pour s'entraîner. Bon, c'est pas des très belles images.
Et au match retour, les joueurs de la Sierra Leone qui ont quitté la pelouse et le stade avec des militaires autour.
Donc il faudra surveiller quand même le Liberia lors du prochain tour, et notamment l'accueil des équipes.
C'est un terrain qui est pas simple.
Et ce serait bien qu'il y ait au moins un avertissement, enfin au moins des sanctions qui tombent, parce que bon, je veux dire, partez pas au foot pour être victime d'un guet-apens. Moi d'être un peu sommaire, mais il y a un moment, il faut dire les choses. Quoi.
Elle n'est pas très encline à mettre des sanctions, on le sait.
Enfin, elle a déjà sanctionné Musa Bility sévèrement, donc faut pas trop leur en demander.
En tout cas, donc voilà, ce sont les équipes 54 sur la ligne de départ pour 5 places à la Coupe du Monde. C'est quand même terrible, ce genre d'éliminatoire, mais pour l'instant,
Il en reste 40.
Ouais, jusqu'à cette fameuse Coupe du Monde à 48, où là, l'Afrique aura peut-être
9 ou 10 sièges.
Peut-être. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci beaucoup, messieurs, d'y avoir participé aujourd'hui. Merci aussi à Laurent Salerno qui était à la réalisation. David Finzel, fidèlement, m'a aidé à préparer cette émission. Et puis Ralph Samouri, notre stagiaire, était là aussi. Et il nous a aidé, lui aussi, dans tout ce qui est chiffres et statistiques. Et on vous dit, fidèlement, à demain.